dis non, mais à la vie, je dis oui.
Bonjour, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et c'est bien l'émission Zoom Écologie, une émission qui traite d'environnement et des libertés et qui a pour thème le nucléaire ce soir. Suite à des petits problèmes techniques, le début de l'émission est amputé, mais la majeure partie est présente et je vous propose de l'écouter maintenant.
Oui, comme l'a dit une personne qui défend le nucléaire, une femme, non, ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident naturel hein, qui a eu lieu à Fukushima, il y a eu un tsunami. Hein. Non, c'est une catastrophe naturelle, hein, c'est vrai.
Non, là, c'est un candidat à talonnette.
Ah, d'accord. Non, mais ça doit être des copains alors. Bon, alors, aujourd'hui,
pour l'apéro presse, on dirait pas comme ça, mais là, on est à l'eau encore pour l'instant. Et à l'eau aux pesticides, puisqu'il y a une discrète directive du ministère de la Santé qui a été révélée le 22 février. Donc qui autorise la multiplication par 5 des doses de pesticides dans l'eau. Alors voilà, donc 5 ans après le Grenelle d'environnement, c'est 5 fois plus de pesticides dans l'eau autorisés. Voilà pour le bilan écologique.
Et donc 5 fois plus de pesticides dans l'eau, mais ça aussi, c'est pas passé dans les médias aussi?
Oui, alors il y a quelques articles sur le site OVNI, sur Bastamag, et puis bon, sur différents sites écolos. Et du coup, voilà.
C'était quoi ce
comme comme l'eau du coup là, on est à la bière.
Sur l'eau, moi, dans la paire aux presse, j'ai aussi une autre information. C'est à Vienne, dans un article de Silence. Donc, ils disent qu'il y a trop de tritium dans l'eau là-bas. Donc, les 70 000 habitants de l'agglomération donc de Châtellerault auraient bu de l'eau radioactive ou pendant aussi pas mal de temps. Et c'est un prélèvement en fait, qui a été effectué donc, le 13 janvier 2012 dans un puits de contrôle des eaux souterraines dans la nappe phréatique située sous la centrale nucléaire de Civaux. Qui indiquait donc un taux de tritium trop élevé, qui est à 540 becquerels par litre, contre 8 becquerels par litre en temps normal, en situation normale. Et donc ce sont donc des antinucléaires locaux, hein, comme par hasard, qui ont alerté sur le fait que la deuxième agglomération du département s'alimente en eau potable à partir de la Vienne, rivière directement reliée à cette nappe. EDF a identifié rapidement ensuite l'origine de la fuite, un bassin de rétention non étanche. Elle a stoppé en moins d'une semaine.
On dirait Castor qui nous raconte une histoire, c'est charmant.
Et oui, c'est super charmant.
Tu racontes bien les histoires.
Donc, je me suis beaucoup entraîné. Donc, EDF donc, estime que la pollution n'était pas grave. Normal, hein. C'est vrai que 540 becquerels par litre contre 8 becquerels en temps normal.
On a vu pire.
On a vu pire. Et donc la CRIRAD qui est intervenue donc, pour rappeler, donc, qu'on aura bientôt au téléphone aussi, donc, pour rappeler que l'Union européenne donc, a mis la limite de potabilité donc, à 100 becquerels par litre et que le Canada, lui, l'a fixé à 20. Donc les 540 quand même sont largement,
tu veux dire qu'on est plus résistant aux becquerels que les Canadiens.
Mais bien sûr, et que peut-être que les gens deviennent. Hein. Ouais, je sais pas, il faudra peut-être demander des choses à la CRIRAD là-dessus.
C'est ça hein. La France forte. Hein.
Bah faut bien parce que vu les concentrations de centrales qu'on a, il vaut mieux qu'on soit plus résistant. Bon, enfin, je sais pas si la nature humaine nous a prédisposé pour. Mais... Mmh. J'y crois pas trop, même.
En tout cas, on peut aussi ajouter que c'est une spéciale donc sur Fukushima et qu'au Japon, il y a aussi donc des choses qui se passent. Il y a eu notamment donc une maison donc dans le même article dans la même page de Silence qui est dédiée au nucléaire. Donc ils ont dans la revue Silence, du mois de mars. Donc il y a eu donc une maison de la résistance qui a été mise en place pour contrer un projet de centrale nucléaire où il y a eu des opposants qui ont refusé de vendre leur maison située sur les terrains prévus pour le chantier et l'ont équipé pour le chantier et l'ont équipé de capteurs solaires éoliennes. Tout comme la maison donc de la résistance de Bure, donc ils ont fait ça pour résister contre un projet local au niveau nucléaire. Et aujourd'hui donc la maison se trouve totalement enclavée dans le terrain de la compagnie donc électrique de là-bas au Japon. Mais les habitants donc refusent de déménager malgré les pressions qu'ils ont pour les isoler. Et donc la compagnie électrique a envisagé donc une procédure pour pouvoir faire sauter l'obligation légale de laisser une route d'accès à la maison. Et un huissier donc qui a été envoyé pour comptabiliser les passages. Et donc il y a une campagne pour justement faire en sorte qu'il y ait des passages dans cet endroit. Une campagne internationale de lettres qui a été financée afin que le facteur y vienne chaque jour. Donc vous pouvez envoyer donc vos encouragements à Asako House. Donc Asako Kuto au 396 Omamachi Shimokitagun Aomori Pref 039-4601 au Japon. Bon, ça a bien compliqué comme ça, mais au moins on vous l'a dit. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit. Et vous pouvez taper donc Maison de la Résistance au Japon pour peut-être sur le net pour avoir plus d'informations et envoyer quand même des courriers. Sur ce, donc on va poursuivre sur notre apéro presse radioactif. Et Clément donc, va nous parler donc, de la force d'action rapide nucléaire prévue par EDF.
Ouais. Alors juste avant, en fait, je viens de tomber sur un papier intéressant sur la présentation d'un livre qui s'appelle « Oublier Fukushima », qui sort en librairie le 22 mars, enfin qui est sorti la semaine dernière, pardon, et donc qui retrace en fait la catastrophe et ce qui a été fait pour la faire oublier plus ou moins rapidement. Donc, je vous lis juste rapidement la quatrième de couverture qui est assez intéressante. Donc la catastrophe nucléaire au Japon serait résolue. Catastrophée, liquidée, évacuée, réhabilitée, banalisée, autant d'épisodes d'un feuilleton destiné à nous faire oublier Fukushima. Autant de chapitres de ce livre pour défaire les mensonges des États nucléarisés. Je ne veux plus y retourner. Là-bas, la vie a été effacée, explique une grand-mère japonaise qui a fui la zone contaminée. La catastrophe dans laquelle se débattent les Japonais n'est pas seulement un aperçu de ce qui nous attend partout ailleurs, c'est aussi le miroir grossissant de notre condition présente, celle de prisonniers d'un monde clos. Chaque foutue aspiration à la liberté se cogne au mur des installations nucléaires, se perd dans le temps infini de la contamination. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? De Tchernobyl à Fukushima, du Japon à la France, des textes, des récits, des documents. Pour contribuer à l'histoire immédiate du désastre nucléaire, pour nourrir quelques esprits qui refusent de se résigner. Donc c'est le bouquin « Oublier Fukushima » qui est sorti la semaine dernière en librairie. 240 pages, diffusion court-circuit. Voilà, parlez-en à votre libraire. Et donc pour revenir à la France et à l'apéro presse, puisqu'on présente des articles, je vais vous parler rapidement de la force d'action rapide nucléaire. Encore un superbe programme comme on en fait dans les écoles de management.
Mais c'est quoi alors cette force rapide nucléaire? Ça n'a rien à voir avec Mohamed Merah, par exemple.
Absolument
c'est
pas.
C'est le raid d'EDF en fait pour combattre le nucléaire.
Mais le temps de réaction est à peu près similaire. C'est-à-dire que.
Des problèmes.
En fait, c'est une proposition d'EDF pour. Réagir à des catastrophes nucléaires sur plusieurs réacteurs en même temps. Parce qu'ils se sont rendus compte avec Fukushima ou avec ce qui s'est passé au Blayais il y a de ça un peu 10 ans, en 99, ça fait même un peu plus, qu'il pouvait y avoir des problèmes sur plusieurs réacteurs. Bon alors, soi-disant, ils savaient déjà gérer sur un réacteur, bon ça reste à démontrer, mais sur plusieurs, là, ils essayent de s'adapter, donc de trouver des solutions, des forces d'intervention, etc.
Ah, parce qu'ils se sont rendus compte à Fukushima qu'il pouvait y avoir plusieurs réacteurs qui...
Voilà, donc comme il y a quatre réacteurs qui ont été touchés sur un même site, sur une centrale, du coup, ils se sont dit, tiens, c'est vrai que ce serait pas mal, parce que les Japonais ont eu du mal à refroidir tous ces réacteurs qui explosaient. Donc ils se sont dit, nous, on va être vachement forts, on va ramener de l'eau, de l'électricité, et puis on va pouvoir refroidir tout ce qu'on veut, comme on veut.
Et bon, si,
c'est un peu caricatural. Mais
si,
c'est un peu
par exemple, je pense à la centrale de Chinon, si le niveau de la Loire devient trop bas pour alimenter la centrale, ça se passe comment à ce moment-là pour,
bah,
pour amener de l'eau et tout, parce qu'il faut quand même des grosses.
J'ai pas encore
d'eau,
les détails, mais bon, en gros, pour vous présenter la chose, donc c'est une force d'action de quelques centaines d'employés répartis sur 4 bases régionales, avec une coordination nationale à Paris, évidemment, puisqu'on est dans un État centralisé. Et donc ça a été présenté en fait la semaine dernière par le responsable de la gestion de crise d'EDF, donc au niveau du parc nucléaire, donc Christophe Pideux, et qui a présenté cette force d'action qui se prépare un peu depuis un an à peu près, qui avait été annoncée par le PDG d'EDF, Henri Proglio. Et donc il y aurait quatre sites régionaux. Donc qui sont a priori la centrale donc de Civaux dans la Vienne, dont on a parlé juste avant, à Paluel en Seine-Maritime, Bugey dans l'Ain, donc pas loin de Lyon, et Dampierre dans le Loiret, donc pas très loin de Paris, et de Nogent-sur-Seine. Voilà, donc l'idée c'est de ce que cette force puisse intervenir dans les 24 heures. S'il y a un accident nucléaire qui provient quelque part sur le territoire. Donc déjà, dans les 24 heures, on peut se dire que c'est quand même long. Parce que l'idée, c'est de confiner la radioactivité et les déchets radioactifs. Voilà. En 24 heures, ça peut aller très très loin. Enfin, bon. Donc déjà, dans les délais, on peut se dire qu'ils ne sont pas vraiment dans les clous, quoi.
Mais attends, mais je croyais que les centrales nucléaires étaient parfaites, non ? C'est pas ce qu'on a précisé récemment ?
Que le risque zéro était atteint, c'est ça ?
Oui, mais enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre d'après les discours
oui,
de
Théa pour dire comme chez France, EDF, ils sont vachement prévoyants, qu'ils aiment bien la sécurité.
Moi, il y a un truc qui me rassure pas, c'est Éric Besson qui va à Fukushima et puis qui est rassuré par l'état de la centrale quand tu vois la gueule du truc. S'il est rassuré avec ça.
Il est rentré dans la centrale ?
Ça fait peur pour ici. Hein.
Il s'est approché à moins de combien de mètres ?
C'est dommage de ne pas l'avoir jeté dedans.
Bien, peut-être. Revenons à la force d'action rapide nucléaire.
C'est une action rapide internationale, là, qui a lieu.
Ouais, non, mais là, l'idée, c'est quand même, bon, c'est vraiment l'exploitant de la centrale qui fait tout pour confiner les effluents et les déchets radioactifs. Voilà. Donc, apparemment, il serait doté de moyens surpuissants pour amener de l'eau pour refroidir, quelles que soient les conditions.
D'accord.
Amener de l'électricité, des groupes électrogènes, enfin tout ce qui peut servir à refroidir une centrale au cas où les systèmes de sécurité en place seraient défaillants ou seraient mis devant les éléments naturels. Voilà.
Ça me fait penser à toutes ces citernes, à tous ces containers d'eau contaminée qui font un espèce de grand champ autour de la centrale de Fukushima. Ça fait beaucoup d'eau quand même à amener.
Ouais, ouais. Bon, alors ils sont quand même dotés de 100 millions d'euros, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Mais rassurez-vous, de toute façon, pour pas que cette force d'action s'ennuie, hein, parce que bon, comme ils sont devant des centrales sûres, ils risquent de s'ennuyer. Donc ils sont en lien avec les unités de production d'EDF. Donc en fait, ils sont intégrés dans les centrales parce que le responsable de l'Organisation nationale de crise estime que, en gros, leur boulot, ça peut être de travailler une fois tous les 10 000 ans. Voilà, c'est une citation, donc il a dit ça. Donc en gros, il estime que ce qu'il est en train de mettre en place, ça peut ne servir à rien dans les 10 000 prochaines années. Bon, on n'y croit pas trop, mais on ne sait jamais, hein. Peut-être que si on décide d'arrêter le nucléaire en France et ailleurs, on n'aura effectivement pas besoin de cette force d'action pseudo-rapide.
Voilà. On pourrait faire pas mal d'économies. Hein.
Mais bon, soi-disant, ça devrait être opérationnel à l'octobre prochain. Et il serait capable d'intervenir sur 2 à 4 réacteurs en même temps. Bon, s'il y en a plus, là, je ne sais pas. Hein, mais, Voilà, donc ça pose pas mal de questions, mais sachez que EDF se creuse la tête pour essayer d'être crédible face à l'opinion publique qui est de plus en plus méfiante quand même.
Oui, enfin en effet, avec après 40 ans de 50 ans de non 40 ans de nucléaire déjà entamé devant nous, c'est bien qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'il y ait une force rapide d'action, quoi. C'est vrai. Hein. Bon, après Fukushima. Hein.
Je vous ai pas parlé de l'essai qu'ils ont fait mois d'octobre dernier.
Il y a eu un accident quand même à Fukushima parce que
ça c'est toi qui le dis. Hein. Je sais pas.
Bon, en tout cas, ils se préparent à ce qu'il y en ait un. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà,
juste pour continuer sur cette force d'action, enfin, ils ont essayé de faire un exercice programmé par la préfecture quand même, qui était bon, plus ou moins dans les tuyaux depuis un an, et ils ont brillamment réussi à. Donc, ça s'est passé en Ardèche en octobre, à Cruas. Donc, ils ont réussi à amener un peu d'eau pour arroser le réacteur. Bon, c'était plus symbolique qu'autre chose, apparemment. Ils ont évacué, mais fictivement, des gens dans un rayon de 2 km de la centrale. Donc, évacué, mais fictivement. En gros, ils n'ont pas bougé.
Fictivement.
Mais on leur a fait croire qu'ils ont bougé. D'accord. Voilà. Donc, sur la gestion des populations, il y a peut-être encore un. Je pars un pas à franchir sur l'évacuation de personnes si jamais il y avait un vrai accident. Et puis, bon, 2 km, c'est peut-être assez peu quand même. Donc, voilà. Et bon, c'était préventif parce qu'en fait, il n'y avait rien de grave. C'est comme les exercices d'alerte incendie. Quoi. On n'y croit jamais vraiment. Puis, le jour où ça arrive, on est bien emmerdé.
Il y a un film, je crois, un petit film assez court, mais qui est assez intéressant. Je crois que ça s'appelle « Ceci est une simulation ». Où on voit un exercice justement comme ça, où on voit que c'est, enfin le test est fait avec un gendarme qui explique en fait là on fait la simulation en s'imaginant que le vent il souffle en sens contraire de maintenant, parce que là en fait on est entre 3 départements et du coup entre les trucs administratifs entre les 3 départements, donc là l'exercice on le fait comme si le vent il soufflait dans l'autre sens.
Pas mal.
Bon. D'accord.
Parce qu'ils peuvent savoir où le vent ira.
Ouais, ouais. Son, puis après, il dit que devin. Pour lui, en fait, c'est surtout un bon exercice de maintien de l'ordre.
D'accord. Donc, faisons des exercices. Et donc, pour clôturer cet apéro presse, donc qui va être une bonne transition pour la suite, je vous citerai donc une phrase d'Albert Jacquard, donc dans la préface du livre Nucléaire, idées reçues et scénario de sortie, donc dans les éditions Utopia 2011, en 2011. Donc si l'on veut faire preuve de sagesse envers les générations futures, il faut sortir de l'atome en ayant comme objectif d'aller plus vite, le plus vite possible. Il nous faut réfuter les raisonnements économiques ou les contraintes administratives qui nous amèneraient à ne pas prendre en compte cette urgence. Donc en clôture, c'était Apéro Presse Radioactif et je passe donc la parole donc à Johan pour qu'il nous annonce une belle musique.
Bah, tant qu'on y est et qu'on va rester dans l'humour, on va écouter un petit jingle amusant et ensuite on va partir avec commandant Simi Hall qui va nous parler de nucléaire, évidemment.
Tu aimes l'herbe ? Nous aussi. Alors écoute, Zoom, Zoom Écologie, 106.3 FM.
Forever, ever, ever. nucléaire. Les ronds-plans se portent des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène. Pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Oh ouais, il faut maintenant arrêter de polluer afin de préserver l'humanité. Il faut maintenant arrêter d'empoisonner les enfants de la Terre. Oh la la la, on peut plus se taire. Supprimer les centrales nucléaires.
Et on repart avec l'émission, c'est parti.
Et oui, salut à tous, donc bienvenue sur Zoom Écologie, donc qui est sur la fréquence Paris Pluriel RFPP 106.3.
Et t'as un joli petit champignon atomique devant toi avec un gros nez rouge.
Mais oui, parce que je fais la revue Silence, qui a une très belle photo, très humoristique, mais qui est en fait triste, sur donc, tout ce qui concerne donc, c'est le logo spécial de la page P, et qui parle en fait sur le nucléaire, ça fait boum, c'est ça qui est écrit sur cette photo. Et donc c'est sur les armes nucléaires, qui est contre les armes nucléaires. C'est une page, en fait, ils ont une page spéciale nucléaire sur cette revue, et une page spéciale sur les armes, sur la paix, la guerre et paix, et sur les armes nucléaires spécialement. Donc, pour revenir là-dessus, oui.
Oui, je voulais m'excuser parce qu'on a eu un auditeur là qui nous a appelé et on pourra pas le passer en ligne tout de suite parce que on attend Roland Desbordes sur la même ligne téléphonique. Mais merci d'avoir appelé.
Et oui, donc comme on vous l'a dit, donc c'est une émission spéciale sur le nucléaire, sur Fukushima, et, donc aussi donc sur la sortie du nucléaire. Et c'est vrai que quand même, on parle beaucoup du nucléaire, mais il faut quand même essayer d'en sortir. Et pour ça, il y a des personnes, des militants surtout, hein, qui ont travaillé anti-nucléaire, qui ont travaillé sur des scénarios en fait énergétiques de sortie nucléaire, parce que l'arme nucléaire, mais aussi la problématique énergétique à prendre en compte, et donc la sortie de l'électronique nucléaire et comment elle se fait. Et donc il y a plusieurs scénarios qui sont faits. Donc il y a par exemple le scénario. Donc je vais vous en citer quelques-uns. On a fait une petite enquête là-dessus. Et donc il y a le scénario par exemple coédité donc par Greenpeace International et les règles donc les conseils européens donc des énergies renouvelables qui en janvier 2007 qui s'appelle Révolution énergétique. Donc vous pouvez le trouver sur internet. Et donc c'est une synthèse donc du nucléaire, de l'état en fait comment sortir du nucléaire au niveau mondial. Donc ça avec un scénario énergétique donc mondial entre 2003 et 2050. Et donc eux, ils ont imaginé un 0 terawatt-heure. Donc terawatt-heure, c'est une unité de mesure en fait en termes de l'électricité.
C'est 1000 milliards de watt-heure.
Exactement. Donc watt, c'est l'unité de puissance. Et heure, c'est en fait c'est le temps. Watt-heure, c'est comme ça qu'on mesure ça. Et donc 0 terawatt-heure, donc de nucléaire affiché pour 2030. Donc dans ce scénario mondial de Greenpeace à ce niveau-là. Avec donc quand même 9 gigawatts qui restent donc en 2030 et 0 gigawatt en 2040. Donc ils imaginent une sortie donc totale selon les pages donc de cette étude. Et après on peut en voir davantage si on épluche donc les annexes. Et après donc sur les scénarios donc de sortie nationale, on va dire en France du nucléaire. Il y a quand même le plus connu, en fait, on va dire, maintenant c'est assez connu, il y en a beaucoup qui le citent, c'est le scénario négawatt, donc qui imagine donc une sortie nucléaire donc entre 2000 et 2050, on va dire entre guillemets. Donc ça a été élaboré donc en 2003.
Ce qui laisse déjà encore beaucoup de temps pour des accidents. Hein, quand même.
Exactement. Mais je vous en citais aussi d'autres qui eux voient des scénarios beaucoup plus courts de sortie nucléaire. Oui,
juste sur Negawatt, il y a enfin on en a déjà parlé. Il y a un nouveau scénario qui a été fait en 2011. Avec une sortie en une vingtaine d'années.
Donc. Ouais, je crois qu'on parlait de 2030 plus.
Ouais, bah on est en 2012, donc ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça laisse encore du temps pour pas mal de situations catastrophiques.
Vu la tournure des choses, je crois que.
Voilà, vu le vieillissement des centrales et leur sûreté actuelle.
Je parle au niveau des gens qui décident. Je crois que ça...
Ah, tu veux dire des responsables ou des irresponsables?
Donc, alors pour enchaîner donc sur ce scénario, donc juste pour expliquer vite fait en fait ce que c'est, il est très intéressant quand même ce scénario, même s'il met du temps en fait, il met du temps à sortir du nucléaire dedans. Donc le scénario Negawatt, c'est que c'est le seul scénario à ma connaissance qui se base donc sur une avenir énergétique donc, qui est sobre d'abord. Donc c'est vraiment quand on dit la démarche Negawatt, ça qui pense à la sobriété énergétique d'abord. À l'efficacité énergétique qui ne peut pas se faire sans la sobriété parce que de toute façon si on consomme trop alors que les matériaux sont plus efficaces au niveau énergétique, bah, ça ne changera pas grand chose et sur du renouvelable. Et donc il prévoyait donc en 2006 une sortie donc, progressive des centrales donc, existantes jusqu'à 2035 sans remplacement par des centrales donc, de troisième génération. Et donc dans la version 2003, la date butoir était plutôt indiquée à 2030. Donc, sans remplacement, bien sûr, par des centrales de nouvelle génération. Donc, voilà, en fait, pour la petite information. Donc, le scénario 2011, là aussi, ils ont imaginé donc, une sortie du nucléaire qui se ferait donc, sur l'échelle de 20 ans. Et avec 90% d'énergie renouvelable dans la part d'énergie. Donc, ça baisse aussi pas mal la consommation de pétrole. Ce qui est assez intéressant, c'est le seul scénario national, je pense, citoyen qui existe pour l'instant. Mais il y a aussi donc, un gros débat chez les antinucléaires entre la sortie longue du nucléaire et la sortie courte.
Progressive ou immédiate.
Immédiate, c'est là aussi. Il y a aussi, par exemple, de 5 à 10 ans. Il y en a qui ont imaginé, par exemple, le réseau sortie nucléaire. A imaginé aussi, donc, il a publié en automne donc, 2007. Ça a été fait par des experts indépendants là aussi au niveau d'énergie et des militants du réseau de sortie nucléaire. Et c'est la seule étude, à ma connaissance, donc peut-être qu'il y en a d'autres, mais de scénarios énergétiques qui se fixent donc spécifiquement une priorité et un objectif donc d'arrêt des centrales électronucléaires. Donc une sortie de 5 à 10 ans, c'est intéressant parce que ça mélange aussi bien les options techniques et politiques, parce qu'en termes d'échéance politique comme ça, bon, on ne peut pas dire on va sortir du nucléaire. On va sortir du nucléaire le lendemain, mais c'est intéressant.
Oui.
Donc c'est quand même 0 TWh en deux quinquennats, 5 ou en un quinquennat, ce qui est quand même assez intéressant. Au niveau régional, il y a aussi donc, les scénarios de sortie nucléaire qui ont été faits par des associations qui s'appellent Virage Énergie, c'est qui a produit une étude complète, c'est au Nord-Pas-de-Calais, où ils ont la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, de Gravelines. Ils ont fait donc en janvier 2008, ça a été financé par plusieurs personnes, c'est une étude qui coûte quand même de l'argent. Ils ont imaginé donc la fermeture donc des 6 réacteurs donc nucléaires de Gravelines entre 2020 et 2030. Ils n'ont pas seulement imaginé, ils ont scénarisé ça, ils ont donné donc des arguments assez techniques et intéressants là-dessus. Et il y a aussi donc bien sûr comme autre scénario qui a été fait en fait pour un micro scénario là pour le coup c'était quand il y avait l'EPR qui allait être construit donc en 2006 je crois
2007 hein. Puisque c'était le débat de l'époque de la campagne machin de l'entre-deux-tours.
D'accord. Et donc, c'est une étude qui a été commanditée donc, par le réseau sortie nucléaire à la société coopérative d'intérêt collectif Les Sept Vents du Cotentin sur le thème, donc, avec 3 milliards d'euros prévus pour l'EPR de Flamanville, que pourrait-on faire dans la région en matière de maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables pour l'emploi. Donc, elle est parue en février 2006. Ils ont démontré, en gros, avec cette étude, que si on investissait à l'époque les 3 milliards d'euros, parce que ça a augmenté depuis, ça a doublé, voilà, on pourrait créer 15 fois plus d'emplois non délocalisables si on investissait toute cette somme dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Pour finir, là, on ira beaucoup plus vite parce qu'on a notre invité qui est au bout du fil, qui nous attend. Donc, sur la sortie immédiate du nucléaire, donc il y en a qui prônent aussi une sortie en urgence du nucléaire parce que c'est tellement dangereux.
C'est ce qui se passe au Japon. Hein,
Voilà, c'est un peu dans ce scénario-là qu'on pourrait se retrouver donc, demain. Donc, y a, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études sur ce genre de sortie. Mais donc, c'est là-dessus, en fait, les défenseurs qui sont les plus avancés sur ces thématiques-là sont le comité Stop Nanjo, qui a été donc, créé en 1986, juste après Tchernobyl, autour de Belbeok, où il y a eu deux physiciens donc, nucléaires, où il y a eu donc, quelque chose qui a été fait là-dessus. C'est beaucoup moins connu, mais en tout cas, c'est quelque chose aussi qui est revenu après Fukushima. C'est-à-dire que des personnes où il y a eu des voix qui ont fait parler d'elles en disant non, maintenant il faut un arrêt immédiat de tous les réacteurs nucléaires et essayer donc d'utiliser d'autres énergies, même carbonées, pour en sortir. Clément, tu peux nous en dire un mot ?
Ouais, enfin c'était juste pour dire que c'était aussi le mot d'ordre de la manif parisienne le 11 mars dernier sur l'arrêt immédiat du nucléaire. Donc après, bon, immédiat, ça ne veut pas dire forcément en 24 heures. Ça peut vouloir dire plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, mais immédiat, ça ne veut pas dire 30 ou 40 ans, quoi. Et
puis après, les déchets, c'est pour longtemps.
Voilà, de toute façon, l'arrêt immédiat, il n'est pas possible puisqu'il faudra gérer sur le long terme. Mais en tout cas, au moins des réacteurs.
On peut faire l'arrêt, mais la sortie, on n'est pas sorti vraiment, en fait. Enfin bon, il y a déjà celle de Kadhafi en Libye qui ne va pas être construite, du coup, là, si j'étais bien tout suivi. Non,
mais il y en a eu plein. Hein. Après Fukushima, il y a aussi celle qui devait être construite en Bolivie qui a été annulée. Ce qui est
Allez, on a Roland d'abord Desbordes qui nous attend au
donc,
téléphone.
Donc, du coup, on va juste enchaîner donc, avec Roland Desbordes, donc qui est là donc, de la CRIRAD, pour nous parler donc, de la radioactivité au niveau donc, de Fukushima et peut-être d'autres choses. Je passe la parole donc à Johan pour lui poser des questions.
Roland Desbordes, est-ce que vous m'entendez ? Roland Desbordes ? Roland Desbordes, est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Un petit problème technique. Je vais rendre la main au... Allô ?
Non. Et oui, nous avons un petit problème technique donc avec Roland Desbordes. Nous espérons donc qu'il va reprendre le téléphone avec nous bientôt. Pour enchaîner donc sur la sortie du nucléaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, en fait, le truc, c'est que plus on avance dans le temps, plus on investit dans le nucléaire, plus ça devient dur en fait, d'en sortir. C'est un peu ce qu'on peut dire parce qu'il y a 30 ans, ça devait être assez simple et maintenant, donc, ça devient encore plus dur. Donc Jean, je reviens donc avec M. Roland Desbordes et Johan, je te passe le micro.
D'accord.
Voilà, bonjour.
Oui, j'entends pas très bien le retour là. Merci, montez si vous pouvez.
On va essayer. Oui, on a des petits problèmes techniques. Je vais essayer de jongler entre le studio et vous. Donc, principalement, on va poser des questions sur... donc, vous êtes le président de la commission de recherche d'informations indépendantes sur la radioactivité. Et juste il y a à peine une heure, j'ai quitté la réunion d'information de la CRIRAD sur Fukushima en compagnie du président de la CRMS. Et au vu des informations données, c'était pas très réjouissant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... nous parler de la situation actuellement à Fukushima.
Alors, à Fukushima même, c'est pas facile, parce que dans la centrale nucléaire, on sait que les problèmes ne sont pas réglés, que c'est toujours TEPCO qui occupe la communication, qui s'occupe de la communication, que depuis le départ, on se méfie beaucoup des informations qu'ils ont données. D'ailleurs, c'est confirmé que on peut dire que des informations ont été données qui étaient fausses sur l'arrêt des réacteurs, etc. etc. Je crois qu'il y a suffisamment de preuves que TEPCO n'a pas donné l'information exacte. Donc on se méfie beaucoup des informations de TEPCO. Après, au-delà, mais évidemment, ça c'est là l'environnement accessible, c'est là où on est allé, nous, la CRIRAD, où Bruno Charéron et Christian Courbon, les deux scientifiques du labo, sont allés. Bon, bah, la situation n'est pas réglée du tout là-bas, puisqu'on a une contamination de l'environnement. Il y a une demande évidemment très très forte de la population pour avoir des informations sur cette contamination, et en particulier des aliments. D'où la création de cette CRIRAD, entre guillemets, hein, au Japon, c'est-à-dire créer partie de citoyens pour créer un laboratoire. Ce qui est chose faite aujourd'hui, c'est-à-dire en un temps record. Le président, donc, M. Ouattarou, a été d'une efficacité remarquable.
Bien. La situation est quand même inquiétante. Hein. À Fukushima même, récemment, ils ont installé une espèce de compteur affichant le niveau de radioactivité dans la ville, qui est relativement élevé, 8 microsieverts. Bon, bien sûr, ils ont nettoyé autour. Hein. Et par rapport à... Enfin, comment peut-on réagir par rapport à tout ça? Parce que ça paraît tellement fou. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, actuellement, au Japon, qui prend une direction qui est relativement chaotique? Et est-ce que vous pensez, alors ça c'est la deuxième question, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution qu'ils ont prise? Est-ce que cette solution va leur permettre de s'en sortir?
Du côté des autorités, non. Depuis le départ, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Non seulement bon, ils n'ont pas donné les informations, mais en plus, ils n'ont pas agi dans le bon sens, que ce soit au niveau de maîtriser la situation de la centrale au départ. Tout le monde sait que quand on ne fait pas certaines choses, on va au-devant des ennuis graves. Ça, on le sait depuis 30 ans ou 40 ans. Et donc, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Après, pour l'information de la population, ben, vous avez constaté, et les Japonais l'ont constaté, que les informations, elles sont contradictoires. Du coup, les Japonais eux-mêmes ne savent plus très bien où ils en sont. C'est pour ça que leur demande est très légitime, c'est de savoir quel est l'état de la contamination de l'environnement et en particulier de l'alimentation. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de venir, on est allé là-bas. C'est pour ça qu'ils ont compris l'utilité d'avoir un laboratoire, qu'ils ont maintenant. Et bien maintenant, il faut continuer pour pouvoir donner cette information à la population, demander des évacuations qui n'ont pas été faites. Évidemment, c'est très tard, un an après, mais mieux vaut tard que jamais, hein, dans ce genre de situation. Oui, il y a des endroits où la population, il est hors de question qu'elle revienne, comme on est en train de le suggérer. Et, au contraire, il faudrait évacuer beaucoup plus largement.
Pourquoi ça ne se fait pas?
Alors, ça, c'est la grande question. On s'est posé, nous, il y a 26 ans avec Tchernobyl, pourquoi l'État français n'a pas donné l'information, pourquoi l'État français n'a pas retiré les produits de la consommation, pourquoi l'État japonais aujourd'hui fait ça, quelle est sa motivation, c'est toujours évidemment très difficile de répondre. Nous, c'est un constat qu'on fait. Est-ce qu'il y a une intention, est-ce qu'il y a une volonté de cacher les choses, est-ce qu'il y a une volonté de défendre l'industrie nucléaire mise à mal dans ce genre de situation? Ça, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas on n'est pas dans la tête des dirigeants de TEPCO ou de l'État pour savoir pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est par incompétence? Est-ce que c'est par volonté? Est-ce que c'est par ça, on ne peut pas le savoir. Et c'est pour ça que nous, on fait un constat, comme on l'a fait il y a 26 ans chez nous en France. Il faut évacuer beaucoup plus largement les populations. Il faut leur donner de la nourriture non contaminée. Il faut, voilà ce qu'il faut faire. Mais ça coûte très cher. Alors, c'est vrai qu'on peut invoquer un argument économique. Bon, le Japon est un pays riche. C'est pas apporter un peu de nourriture non contaminée aux populations. Il n'y a pas des millions de gens. Par contre, il y a bien des centaines de milliers de gens concernés, oui.
Roland Desbordes, j'ai une question à vous poser, en fait, justement, à ce niveau-là. C'est sur le traitement médiatique donc au niveau du nucléaire au Japon, parce que c'est vrai qu'en France on a on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Et moi j'ai vu sur internet donc une personne notamment qui râlait par rapport au traitement médiatique où on dit que tout est bien, tout va bien, tout se passe comme avant limite. Et justement par rapport à ce manque d'informations, est-ce que vous avez des retours là-dessus?
Oui, évidemment, il y a des gens qui se plaignent qu'on parle trop du Japon. Mais regardez d'où ils viennent, ces gens-là, et puis vous comprendrez quelle est leur motivation. Moi, je pense qu'au contraire, on n'en parle pas assez. Ce qui se passe là-bas est quand même dramatique. C'est quand même un événement exceptionnel. C'est ce qu'il ne devait pas se produire. C'est comme Tchernobyl, je veux dire, ça ne devait pas se produire, ça n'avait pas été prévu, ça n'avait pas été envisagé même. Et là, il se produit ce qu'on avait classé comme impossible. Ça fait forcément, c'est normal que ça fasse la une de l'actualité. Et que ce que les Japonais sont en train de vivre, malheureusement, c'est ce qu'ont vécu et ce que vivent encore les gens autour de Tchernobyl. Donc on ne peut pas se satisfaire de dire tout va bien. Ça, c'est ce que certains médias ont laissé entendre à la suite de la catastrophe de Fukushima. C'est, vous voyez bien, les Japonais sont très zen, cool, pas de vagues, pas de protestations, pas de manifestations, tout va bien, tout va bien. Mais non, c'est pas vrai, tout ne va pas bien, on ne peut pas dire ça. C'est inacceptable de laisser entendre ce genre de choses, alors que quand vous allez sur place, et là, heureusement, pour les 1 an de Fukushima, j'ai entendu d'un certain média des gens qui étaient allés réellement sur place enquêter, non pas dans les grandes métropoles comme Tokyo, mais qui étaient allés dans la région de Fukushima. Et là, ils ont rencontré des vrais gens, je dirais, des gens qui sont confrontés au combat quotidien contre la radioactivité, quoi manger, quoi donner à mes enfants, que faire. Eh bien là, j'ai entendu quand même quelques petites choses. Alors, il ne faut pas dire, penser qu'on a surmédiatisé l'événement. L'événement a été colossal. Et ce qui est aujourd'hui, de la part de nos autorités françaises, de nos exploitants, on nous a dit dans un premier temps, oui, après Fukushima, plus rien ne sera comme avant, parce qu'effectivement, ça a quand même marqué pas mal les esprits. On s'aperçoit qu'un an après, petit à petit, on essaye de reprendre la main pour dire, ben si, tout va bien, on peut revivre, on peut réhabituer les gens à vivre en zone contaminée, etc.
Roland Desbordes, on a même eu quand même Nicolas Sarkozy qui a annoncé sur France Inter qu'il n'y avait pas eu d'accident nucléaire. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations. Il y a eu de l'information, y compris dans les médias mainstream, TF1, France 2, BFM, etc. Enfin, bon, sur le moment, mais maintenant, un an après, il y a plus rien du tout. Et on entend même ce genre de discours, que tout est réglé, qu'il n'y a plus de problème, que tout va bien. Donc, je ne sais pas, ça vous inspire quoi, Nicolas Sarkozy qui dit qu'il n'y a pas eu d'accident nucléaire?
Et je lui laisse le responsable de ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors, s'il n'y a pas eu de catastrophe, je ne parle même pas d'accident. Pour moi, c'est une catastrophe. Il y a des accidents, il y a des incidents, il y a des écarts de conduite dans le nucléaire, et puis il y a des catastrophes. Heureusement, il n'y en a pas souvent, mais il y en a quand même eu deux en 25 ans, des catastrophes.
C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'à partir du moment où c'est un tremblement de terre, un tsunami, la catastrophe n'est pas nucléaire.
Non, mais d'accord, mais la catastrophe naturelle, elle s'est doublée d'une catastrophe industrielle. Et s'il n'y avait pas eu de centrale nucléaire, il n'y aurait pas eu de catastrophe nucléaire derrière. Le problème, c'est qu'on a construit des centrales nucléaires dans des zones tout à fait invraisemblables. Quand on est dans
J'ai une question un petit peu, parce qu'on voit des informations qui sont à la fois sur des blogs, ou même sur des Mediapart, à propos de la situation des enfants, de la contamination des enfants sur place. On voit de plus en plus d'infos qui parlent de problèmes sur la thyroïde, de diarrhée, d'hémorragie, de conjonctivite hémorragique, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il en est vraiment là parce que toutes ces contaminations, on parle de Becquerel et tout ça, mais ça a un impact sur la santé. On commence à voir se multiplier ce genre d'infos qui nous parlent de problèmes concrets sur les enfants. Est-ce que vous avez des précisions un peu là-dessus?
Non, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le côté le plus difficile dans l'histoire. Mesurer, contrôler, trouver, analyser des Becquerel dans l'environnement, si on utilise le bon appareil et qu'on utilise les bons protocoles, on va les trouver. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est ce qu'on a fait, nous. On a fait notre part de travail là-dedans. CRMS fait sa part de travail aujourd'hui là-dessus. Par contre, les conséquences de ces pollutions environnementales, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cette radioactivité, elle n'a rien de naturel. Et même si elle était naturelle, elle pourrait, même la radioactivité naturelle, poser elle-même des problèmes. Mais en tout cas, il s'agit bien de pollution environnementale. Eh bien, on sait qu'elle a des conséquences sanitaires. Le problème, c'est que pour les mettre en évidence, ces conséquences sanitaires, c'est une autre paire de manches. Et là, ça demande d'abord une volonté politique. Pourquoi ? Parce que pour s'intéresser à la santé des gens, il faut avoir accès aux dossiers médicaux. Or, vous n'avez pas, vous, accès aux dossiers médicaux. Comme nous, on n'a pas accès aux dossiers médicaux. Pour avoir accès aux dossiers médicaux, il faut anonymiser les dossiers. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une volonté de l'État pour ça. Il faut qu'il y ait des gens compétents. Il faut qu'il y ait des moyens financiers. Il faut du recul, en plus, pour pouvoir... du recul, c'est-à-dire un peu du temps pour ça.
Après, ça part de témoignages aussi sur place.
C'est pas les comptages qu'on peut faire. C'est des constats qui sont faits aujourd'hui. C'est pas des études, des constats de gens qui se posent des questions. Évidemment, je ne récuse rien de tout ça. Je dis simplement, ce ne sont pas des preuves scientifiques. Ce sont des constats qu'il faut prendre en compte et qu'il faudra bien étudier, mais étudier sérieusement. Pas, évidemment, les mettre à la trappe. Ce n'est pas mon souhait, évidemment. Mais il faut que, pour pouvoir faire ces études-là, il faudra le temps. Malheureusement, actuellement, le problème, c'est que l'urgence, ce n'est pas de faire ces études. L'urgence, c'est d'évacuer les gens qui vivent dans ces zones-là.
On a vu sur un documentaire d'Arte... qui avançait, et bon, je traîne pas mal un peu sur des infos qui en sont un peu anxiogènes des fois, mais j'avais pas été jusque-là, et sur Arte, ils avançaient que l'explosion du réacteur numéro 3 partait de la piscine de combustible, c'est-à-dire que là, on est dans un cas beaucoup plus grave que l'explosion d'hydrogène, c'est qu'on est, sur l'explosion du combustible de la piscine du réacteur 3.
Sur ces aspects très techniques, là, nous, on est comme tout le monde, on n'a pas de données au-delà, je dirais, et comme on ne peut pas aller sur place, aujourd'hui, on est obligé d'interpréter, de décrypter, d'essayer de décrypter les maigres informations données par TEPCO. Alors, d'une part, TEPCO, effectivement, ne donne pas beaucoup d'informations. Je pense que volontairement, TEPCO brouille les pistes, hein, pour qu'on ne sache pas trop ce qui se passe. Et surtout, TEPCO ne sait pas ce qui se passe dans les installations. Ça, c'est une réalité, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à surveiller, contrôler, observer, mais en aveugle. C'est quand même très embêtant. Quand il y a une élévation de température sur un capteur, à un moment donné, ils sont obligés de le dire. Et le lendemain, ils vous disent « Ah ben non, c'est le capteur qui est défectueux. » Bon, ben écoutez, moi, ça marche bien une fois, mais ça ne marche pas plusieurs fois. Les capteurs défectueux, les alarmes intempestives, on connaît ça dans le nucléaire. Ça veut dire qu'on cache des choses. Hein. Ou alors, c'est qu'on est vraiment incompétent. Donc, interpréter les seules informations qu'on a, c'est une opération périlleuse, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, à la CRIRAD, on ne rentre pas dans ce débat qui est un débat très technique et qui concerne l'installation. Ce qui est certain, c'est que les cœurs des réacteurs ont fondu, qu'on est dans des coriums qui ont traversé la cuve. Ça, je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement ? Les cœurs ne sont pas à froid. Donc, il y a encore nécessité... je dirais, d'intervenir pour évacuer la chaleur, oui. Au-delà, le scénario de ce qui se produit en ce moment n'a jamais été écrit, puisqu'il ne s'est jamais réalisé avant. Jusque-là, on était devant un scénario qu'on connaissait, plus ou moins. Il y avait un petit peu de Three Mile Island de 79, beaucoup de Tchernobyl 86, donc jusqu'à la fusion des cœurs et au perçage de la cuve et attaque du béton, sans ce qu'on connaissait. Au-delà, on ne sait pas, puisque ça ne s'est jamais produit. Alors, on est devant des hypothèses. Il faut bien se mettre dans la tête, en tant que citoyen, on est devant des gens qui font des hypothèses. Le drame, c'est que vous avez des scientifiques ou des pseudo-scientifiques qui ne disent pas que ce sont des hypothèses et qui transforment ça en certitude. Du coup, ça devient complètement déroutant. On ne sait plus où est la réalité et où est la fiction là-dedans.
Merci. Je crois que Khaled a une question.
Oui, Roland Desbordes, c'est pour justement vous dire, en fait, nous, on est une émission sur l'écologie. Sur l'écologie, c'est vrai qu'en ce moment, on se pose pas mal la question sur la relocalisation de l'alimentation. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a les AMAP qui montent pas mal en ce moment-là, enfin, en ce moment, en France, là-dessus. Et le Japon, c'est le pays qui est à l'origine, en fait, à ce qui paraît, donc des AMAP. C'est des pays, premiers pays où il y a eu ces premiers pays, enfin ces paniers paysans qui se faisaient avec ce système-là. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez triste de se dire ce qu'est devenu un peu, enfin, on peut dire en termes de contamination radioactive.
Fukushima, c'est une région qui est important producteur de riz.
En plus, ouais. Et donc du coup, bah voilà, en fait, en France, on veut pas mal relocaliser par rapport au problème du pétrole, on va dire. Enfin, c'est vrai qu'on touche des questions de fond écolo à ce niveau-là, mais on veut pas mal relocaliser l'alimentation pour sortir du pétrole. Mais finalement, si on a encore du nucléaire et qu'il y a une catastrophe équivalente à celle de Fukushima en termes de pollution de l'environnement, on est face à un gros problème. Et justement, vous avez donc commencé à parler là-dessus sur l'alimentation. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Et ça donne toute la dimension d'une catastrophe nucléaire. Nos autorités françaises ont travaillé sur le scénario de Tchernobyl, c'est-à-dire une contamination importante en cas d'accident grave en France. Hein, le scénario de Tchernobyl, c'est-à-dire une zone d'interdiction temporaire ou plus ou moins longue, hein, et puis une zone au-delà. Où on estime que la population peut vivre normalement. Et donc, on ne va pas l'évacuer. On ne va pas non plus lui apporter des soutiens, puisqu'on estime qu'elle peut vivre normalement. C'est quoi le vivre normalement pour nos autorités françaises? Eh bien, c'est ce qu'ont tiré nos autorités comme leçon de Tchernobyl. Et c'est quoi? Bon, alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a eu beaucoup de Français, de chercheurs, de scientifiques, qui ont été missionnés pour aller travailler dans les zones proches de Tchernobyl, à travers des programmes français, européens. Et là, vous retrouvez ces scientifiques, aussi bien des sociologues de l'université de Caen, vous trouvez EDF, Areva, évidemment, ça les intéresse au plus haut niveau, vous trouvez des psychologues, vous trouvez des sociologues, vous trouvez des historiens. Alors vous dites, mais tiens, ça manque un peu de scientifique tout ça. Ben oui, parce que l'objectif de ce genre de travail, c'est pas d'informer sur la contamination de l'environnement. Au contraire, l'objectif, c'est de faire oublier la radioactivité présente dans cet environnement pour essayer de convaincre les gens qu'elle n'existe plus, qu'on peut vivre normalement dans un environnement contaminé. Et que si vous êtes producteur et que vous, soit pour vous ou pour vos voisins, style AMAP, vous pouvez continuer à mener une activité normale. Voilà. On peut vivre, alors je schématise un peu, mais on peut vivre heureux en zone contaminée. Eh bien, ça c'est le programme qui a été mis au point par l'Europe et par la France, évidemment très 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 présent, poussé par la France, qui s'appelle CORE, Coopération pour la Réhabilitation, qui s'appelle ETHOS, vous voyez, il y a des mots très... Hein, qui est devenu en France pareil, c'est-à-dire gestion Comité Directeur pour la Gestion Post-Accidentelle. Et quelles sont les conclusions de tout ça? Ben oui, si ça se produisait chez nous en France, quelles sont les leçons de Tchernobyl? Eh bien, c'est qu'on peut convaincre des populations, on peut les persuader qu'on peut vivre en zone contaminée, et qu'on te met de la radioactivité tous les jours, un petit peu, en petite dose, et que tout ça, c'est possible, voilà, que ça ne doit pas poser problème. On va donc essayer d'oublier la radioactivité, et pour ça, on va même jusqu'à parler de sociologie ou de psychologie, puisque l'argument qui est donné, puisqu'il faut oublier la radioactivité, il faut donc soigner la radiophobie, c'est-à-dire la peur des radiations. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est ce qui nous attend, nous, en France, en cas d'accident nucléaire grave, contamination de l'environnement. Eh bien, il faut que les Français sachent que, et en particulier ceux qui sont les plus proches du terroir, donc c'est-à-dire les agriculteurs, ou les gens qui vont se servir directement chez les agriculteurs, que leur alimentation sera contaminée et qu'ils n'auront pas d'indemnisation parce qu'on considère que ça, c'est acceptable. Après, ce sera peut-être aux citoyens de se révolter contre ce genre de scénario. Mais pour l'instant, il faut que les Français le sachent, que c'est ça qui est prévu.
Bien, Roland Novart, merci beaucoup. L'émission arrive à sa fin, mais j'ai une dernière petite question que je vais vous demander de répondre assez brièvement. C'est sur l'état du réacteur numéro 4, qu'est-ce que vous en pensez? Et éventuellement, est-ce qu'on peut avoir votre intuition sur la situation future? En gros, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça commence? Et peut-être une dernière question faite par Cyril, que je mets en ligne tout de suite.
Sur le réacteur 4, justement, on voit, il y a eu une émission avec un scientifique japonais qui expliquait que dans le réacteur 4, la piscine était... avait des risques de s'effondrer en cas de nouveau tremblement de terre important qui contient 220 et quelques tonnes de combustible. Ça parle d'évacuer Tokyo, je crois que c'est 30 millions d'habitants.
Oui, ça fait partie des scénarios catastrophes possibles. Je ne l'écarte pas. Je sais qu'une piscine dans laquelle vous avez l'équivalent de plusieurs dizaines, ou en tout cas plusieurs, au moins une dizaine de cœurs de réacteurs, c'est-à-dire l'équivalent de 10 réacteurs en puissance de nuisance, qu'il est absolument indispensable de ne pas dénoyer la piscine, donc de ne pas qu'elle se vide. C'est ce qu'on a à La Hague, nous, mais à La Hague, la chose qu'on surveille le plus, c'est justement le niveau d'eau. Heureusement, il n'y a pas de séisme à La Hague, il n'y a pas eu d'endommagement, etc. Là, on est devant une piscine qui est un peu en hauteur, qui est fissurée, visiblement, puisqu'elle perd de l'eau. Si le dénoyage des combustibles se fait, tout le monde sait qu'on va devant un scénario catastrophe. Alors, lequel exactement? Est-ce qu'il faudrait évacuer Tokyo? Ça, je ne peux pas l'affirmer, parce que ce scénario-là non plus ne s'est jamais produit. On sait que c'est grave, mais il ne s'est jamais réalisé, parce qu'on a toujours fait tout ce qu'il fallait pour ne se réalise pas. Est-ce que TEPCO, lui, fait tout ce qu'il faut pour que ça ne réalise pas? Je n'en suis pas persuadé, malheureusement, vu ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Et donc, que cette piscine, suite à d'autres tremblements de terre, parce que ça bouge tout le temps, ou simplement à des fissures qui se sont ouvertes et qui peuvent s'agrandir, si elle est dénoyée, hein, donc si le combustible est dénoyé, oui, on va devant un scénario grave. Alors, est-ce que ce sera une explosion nucléaire? C'est pas évident, c'est une hypothèse, ce n'est pas la seule, c'est quand même l'hypothèse extrême, c'est vrai, c'est que là, on peut imaginer qu'une bonne partie du Japon serait rayée de la carte.
Votre intuition, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça va continuer? Très rapidement.
Pardon-le ?
Votre intuition.
Ah, je n'ai pas d'intuition, moi.
D'accord.
je ne tire pas des plans sur la comète. Je ne cherche pas à alarmer inutilement. Je dis, il y a plusieurs scénarios. Je ne sais pas lequel se produira. Mais en tout cas, le problème n'est pas terminé.
Je vous remercie, Roland. Bon, je suis obligé de rendre l'antenne. Je vais rendre rapidement au studio pour faire l'agenda. Et puis, je vous remercie beaucoup. Je vous prends tout de suite au téléphone. Et encore merci. Et puis, voilà, l'agenda maintenant.
Merci.
Eh bien non, il n'y aura pas d'agenda parce qu'on va enchaîner avec l'émission d'après. On est déjà un petit peu hors délai. Johan, je compte sur toi pour nous mettre une petite musique.
Et c'est pas grave, il fallait en parler.
Mais comme dit Bébert,
salutations écologiques et solidaires.
Ciao.
Tu peux.
Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Je crois qu'il n'y aura pas de fuite dans l'environnement.
Fini tout, ma besoin touche frontière. Pas dit moi non. Ou savent que moi love de vous. L'amour son bagaille qui tout. Faut donc à songer ça. Pas dit moi non. Tout ça ou les moins que ça bat. Sugar. Des jours passés déjà bien trop longs. Passe la vie à pas qu'un sens sans vous.